reprends le micro. Merci beaucoup. Bon, on a un peu débordé sur l'horaire, hein, bon, mais en même temps, c'était très intéressant. Donc, vous êtes tous pardonnés, il n'y a pas de problème. Donc, il nous reste trois quarts d'heure pour poser toutes les questions. J'espère que vous avez bien pris des notes, parce que demain, il y a un terreau, hein, pour voir ce que vous avez retenu. Donc, c'est le moment. Hein. Moi, j'en avais une, je commence. Alors, je rappelle qu'il y a beaucoup de monde aussi dans la salle à côté là, du planétarium, où vous suivez évidemment la conférence en même temps que nous. Et vous pouvez aussi intervenir quand vous le voulez pour poser des questions. Moi, je me demandais, est-ce qu'on est tous égaux par rapport à la mémoire? Est-ce qu'il y a une égalité homme-femme? On dit par exemple, les femmes, elles n'oublient jamais la date de leur mariage, les hommes, c'est pas toujours ça. Est-ce qu'il y a des raisons à ça? C'est un exemple. Hein.
Vachement provocateur. Hein. C'est trop provocateur.
Ouf, je sais pas.
Joker.
Joker.
Bon, je disais joker. Mais
ah oui, en plus, oui. Vous avez raison. Mais on les oublie pas quand même. Non, il n'y a pas de joker, il ne veut pas répondre.
Bon,
alors. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? D'autres? Alors, oui, il va répondre. Hein. Là, la prochaine, c'est sûr. Hein. On va pas. J'ai pas de piège, je regarde dans les noms. Oui, madame. Le micro arrive, regardez.
Une question très simple. Pour
parler bien devant pour que tout le monde entende.
Comment se fait-il que ces observations tout à fait judicieuses pour aider le repérage des personnes ne sont-elles pas utilisées à l'hôpital? Par exemple, lorsque je vais au rez-de-chaussée, quand on revient des étages et qu'on voit les gens qui s'égayent de tous les côtés sans avoir vu sur le sol un marquage qui marquerait, par exemple, entrée principale au lieu que ce soit en haut, ça me paraîtrait pas idiot, non?
Joker.
Oh non.
Non, c'est vrai, Françoise, mais on constate que ça vient néanmoins. Il y a des endroits, je crois, en pédiatrie, on voit des traces sur le sol qui sont. Et puis dans notre bonne ville de Poitiers, c'est vrai qu'on peut visiter tous les beaux monuments en suivant la pointe de ses chaussures. Alors il faut appeler à ce développement.
Ouais, fil rouge, jaune, bleu, c'est ça. D'autres questions? Il y a une question au fond. Je vois, j'ai vu un bras se lever. On a vu là, tout à l'heure, vous parliez des techniques pour entraîner sa mémoire dans le cas de pathologie, de mémoire altérée. Est-ce qu'on peut conseiller, à partir d'un certain âge ou pas d'ailleurs, des trucs pour entraîner sa mémoire, pour éviter d'avoir ces pertes de mémoire? C'est quelque chose qui est à la mode, on voit beaucoup de choses, même sur les consoles de jeux vidéo, maintenant il y a des jeux pour entretenir sa mémoire. Est-ce que c'est des choses que vous conseillez?
Oui, bon, alors incontestablement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la culture du jeu pour le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire, entretenir sa mémoire? Ça veut dire vivre et exister sur le plan de la relation, sur le plan du contact, etc. Et au fond, le meilleur entretien de la mémoire, c'est la rue, le journal, la télévision, la radio, l'investissement associatif. C'est cette vie de relation. Alors, effectivement, dans les cas où cette vie de relation se reconfigure, parfois dans certains types de retraites ou à la suite d'événements, un sujet peut se sentir isolé et alors peut fréquenter des cercles dans lesquels, effectivement, on se rencontre pour cultiver la mémoire. Mais c'est une méthode de relation. Et ce sont les ateliers mémoire. Bien entendu, c'est utile. C'est utile quand on n'a pas de lieu pour exercer sa mémoire d'une manière facile, courante. Et je crois que là, les associations qui ont promu ces ateliers mémoire font un excellent travail, dans la mesure où ce qui est très important, c'est de mettre le sujet en condition, hein, en condition d'entretenir le fonctionnement. Des volets se rouillent s'ils ne sont pas ouverts régulièrement. Mais il y a aussi une autre conséquence qui est très importante, et ça, les médecins et généralistes et les gériatres le savent bien, c'est qu'il faut dépister soigneusement en termes de santé publique, tout ce qui, au cours du vieillissement, peut être un facteur d'isolement sensoriel. Les lunettes, c'est capital. Si nous n'avons pas de lunettes adaptées, nous ne pouvons plus lire. On ne peut pas regarder les sous-titres à un film étranger, ou etc. L'audition, c'est un élément aussi capital. Et le dépistage des surdités est très important. Eh bien, je crois que c'est tout cela qui, conjugué, permet finalement à la mémoire de mieux se défendre contre le temps.
Très bien, il y avait une question au fond, je crois. Alors, oui, allez-y, monsieur.
Monsieur Gilles m'a coupé l'herbe sous le pied. C'était précisément la question que je voulais poser, à savoir quel était l'intérêt, l'utilité et la valeur des ateliers mémoire. Et je me rends bien compte qu'au bout de l'affaire, ces ateliers ont un sens, ont une qualité de socialisation peut-être plus importante que l'objet même de la rééducation mnésique. Et que derrière ça, il y a un intérêt qu'il me paraît bon de développer. Et effectivement, non seulement d'entretenir, mais effectivement de développer et d'accroître. Mais j'avais une autre question également à poser, à savoir que dans une quinzaine de jours, très précisément, les 23, 24, 25 février prochain, a lieu à Paris, plus précisément au Grand Palais, une vente publique d'objets d'art, d'une collection pratiquement qualifiée d'unique, une collection dite du siècle, où il doit y avoir grosso modo entre 200 à 400 millions de ventes qui sont prévues. C'est la collection de monsieur Pierre Berger, qui, comme vous le savez, est le compagnon, a été le compagnon de monsieur Yves Saint-Laurent. Et il le met donc cette collection, ou tout au moins une partie de cette collection, en vente. Et à la question que Laure Adler lui a posée tout récemment, à savoir pourquoi vendez-vous cette collection, M. Berger a répondu, c'est pour me libérer. Alors, est-ce que, ma question la voici, est-ce que on peut se libérer de sa mémoire? Alors, j'attends, s'il vous plaît, votre réponse.
Moi, je ne peux pas répondre.
Bon, alors...
Mon micro marche pas.
Deux questions. En ce qui concerne la première sur les ateliers mémoire, je voudrais quand même apporter la précision suivante. Il est quand même important que ces ateliers mémoire soient animés par une professionnelle, par tout au moins quelqu'un qui ait des connaissances sur le plan psychologique. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que si dans ces ateliers mémoire se glissent des personnes qui ont un début de maladie d'Alzheimer, par exemple, ces personnes vont se sentir disqualifiées par rapport aux autres. Et vous savez, dans ces ateliers mémoire, ça peut être une compétition. Et donc, du coup, vous pouvez avoir quelqu'un qui perd tout le temps. Et alors, on vient là pour se restaurer, et finalement, si vous voulez... Le vieillissement, c'est arriver à s'estimer encore un peu, quoi, hein, et que finalement, on blesse profondément ces personnes et on peut voir des drames. Donc, les ateliers mémoire, c'est bien, ça a bien cette fonction sociétale, mais il faut néanmoins qu'il y ait un support scientifique, technique à côté, dans l'idéal, un psychologue, une psychologue, pour pouvoir contrôler un peu ce qui s'y passe. C'est un élément qui est extrêmement important. Bon, vous savez, Pierre Berger se débarrasse de ses bagages réels, mais il les garde dans sa tête. Alors, je pense qu'effectivement, grâce à sa mémoire, il peut vendre et il ne les perdra pas, les objets. Et ce qu'il y a de merveilleux dans la mémoire, c'est que ça peut continuer d'actualiser même ce qu'on croyait perdu. C'est comme ça qu'on fait avec les êtres chers qui nous quittent, quoi.
Donc, vulgairement, on ne peut pas tourner la page. passé et de
mettre
au fond du trou précisément tous ces souvenirs.
Je ne pense pas qu'on puisse effectivement oublier sur commande. Et quand j'évoquais tout à l'heure les hypermnésies, on sait aussi ce qu'il y a parfois de triste dans ces souvenirs qui vous assaillent et qui constituent par exemple les ruminations dépressives. Le poète disait « Comme un vol criard d'oiseaux en émoi, tous ces souvenirs se jettent sur moi. » Et c'est vrai que parfois, on peut avoir des souvenirs qui vous lacèrent, mais d'autres qui vous rappellent aussi des instants de bonheur.
Oui, s'il vous plaît.
On vous écoute.
Oui, merci. Oui, je voudrais que vous nous précisiez, si possible, s'il existe des moyens assez simples, notamment d'avoir une mémoire sélective, de ne pas trop accumuler dans le temps toutes sortes de souvenirs, et que par moments ça se mélange, est-ce qu'on a quelque part les moyens de faire le tri? Et puis une autre question, une mémoire visuelle, est-ce qu'on peut l'améliorer? Parce que, me semble-t-il, la vision contribue énormément à mémoriser tout ce qui passe autour de nous et tous les jours. Et donc, peut-on justement améliorer la mémoire visuelle? Merci.
Une question à l'intérieur, s'il vous plaît.
On répond juste à cette question-là et puis on prend votre question.
Oui, alors, la mémoire sélective, c'est un sujet difficile. C'est une mémoire qui s'éduque, c'est une mémoire pour l'action, c'est trier dans les souvenirs ce qui va être utile. Ça relève beaucoup des capacités de discernement des individus et du projet qu'ils ont de vie. J'ai besoin d'apprendre ceci, le reste je vais laisser tomber. Voilà. Donc je crois que là, ça se travaille personnellement ou avec l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller qui peut essayer de dire quel est votre projet de vie. Et en fonction de là, on peut essayer de savoir ce qui doit faire l'objet d'une attention et ce qu'on doit tenter d'évacuer. Alors en ce qui concerne la mémoire visuelle, vous savez, la mémoire, elle entre en nous comme le monde, c'est-à-dire par tous les organes des sens. À partir de notre naissance, le monde fait irruption en nous et il nous construit. Quand nous naissons, qu'avons-nous comme trace dans notre cerveau? Nous avons probablement des traces auditives parce que quand une maman est enceinte, il y a du bruit autour et l'enfant entend. Et puis, il y a les mouvements qui déjà dessinent. Mais c'est très rudimentaire. Et à partir de la naissance, le monde s'engouffre. Et il s'engouffre par tous les organes des sens. Les philosophes scolastiques disaient déjà, il n'y a rien dans l'esprit qui ne soit entré par les organes des sens. Et c'est tout cela qui va abreuver la mémoire, qui va la construire. Donc il y a ce qu'on entend, c'est vrai, il y a ce qu'on voit, mais il y a aussi ce qu'on touche, il y a ce qu'on sent, il y a ce qu'on goûte. Autant il y a d'organes de sens, autant il y a une mémoire. Et ceci dessine dans le cerveau comme des toiles d'araignée, avec au centre le souvenir. Ce souvenir d'un thé, cet après-midi-là, c'est évoquer le cadre, le soleil qui faisait en entrant ou qui se couchait, l'odeur, le contact de la tasse, sa qualité extrême, c'est une porcelaine très fine, son contact sur la bouche, la première gorgée de bière, hein, disait un roman, celle-là c'est de thé. Tout cela, c'est le souvenir. Donc on ne peut pas schématiser, c'est vrai qu'il y a deux grosses mémoires, mais tout concourt à construire cette faculté et à réévoquer le passé. Alors bien sûr, le verbal et le visuel sont aussi utilitaires. Donc tout doit être cultivé dans la mémoire, tout doit être cultivé. Et les personnes malvoyantes qui sont privées de sensorialité nous montrent combien le tact chez elles et acquiert une importance aussi grande que la vue. Donc rien ne doit être négligé comme bâtisseur de mémoire.
Il y avait une question dans le planétarium, je crois. Vous pouvez y aller. On vous écoute.
Oui, bonjour.
Vous avez entendu ?
Tout à fait, oui. Non, c'est une... c'est banal de dire c'est une bonne question, mais enfin, la question est tout à fait pertinente. Nous avons beaucoup parlé de différents types de mémoire, et à un moment, Madame Pluchon a évoqué ce qu'elle appelait la mémoire sémantique. Bon. Effectivement, on peut perdre des acquisitions de la langue. Et dans certains cas, des sujets consultent pour un trouble de la mémoire, et on s'aperçoit que ce n'est pas un trouble de la mémoire des événements, c'est un trouble de la mémoire des mots. Ou bien que les sujets ne trouvent pas les mots, ou bien que les mots sonnent creux, et qu'en écoutant un mot, ils ne peuvent plus savoir ce qu'il signifie. Vous savez, le mot, c'est comme la paille et le grain. Il y a la coque et il y a ce qu'il y a dedans. Et Joubert, le philosophe, disait, il ne faut pas prendre la paille des mots pour le grain des choses. Eh bien, ce qui peut arriver dans certaines maladies dégénératives, qui ne sont pas de l'Alzheimer, c'est que des personnes, tout à coup, entendent des mots comme des enveloppes vides et ne peuvent plus savoir à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'un kangourou ? Kangourou... Kangourou. Ce matin, une personne à la consultation me dit solfège. Ses parents étaient musiciens, tout ça. Qu'est-ce que le solfège ? Qu'est-ce que c'est que ce type d'appareil ? Vous voyez ? Donc, effectivement, on peut perdre cela. Donc, on peut perdre le fait de trouver le mot, mais on peut perdre aussi le sens des mots, comme si les mots s'évidaient. Il n'y avait plus que l'enveloppe. Et ça se rencontre dans une maladie dégénérative spéciale qui est bien moins fréquente que la maladie d'Alzheimer, mais qu'on rencontre. On peut considérer que pour environ 100 maladies d'Alzheimer, on a une personne qui n'a pas, qui a cela. Donc on peut aussi perdre le langage.
Et est-ce qu'on peut le récupérer, demandait aussi cette dame.
Alors, aujourd'hui, dans le cadre d'une maladie dégénérative, nous n'avons pas le moyen de restaurer la fonction. Ça ne veut pas dire qu'on ne le prend pas en charge. Il faut essayer de voir ce qui est préservé pour le faire mieux utiliser. Mais c'est vrai que on entend beaucoup parler... Quand on parle de la maladie d'Alzheimer, souvenez-vous, il y a toujours maladie apparentée. L'association France Alzheimer, dont on sait l'importance de l'action dans notre pays, l'association France Alzheimer, c'est « et maladie apparentée ». Eh bien, il ne faut pas prendre ce maladie apparentée comme quelque chose d'accessoire. Hein, c'est dans le titre. Et il y a beaucoup de recherches à faire à côté. À côté, 50% des maladies dégénératives, c'est de l'Alzheimer. 50%, c'est autre chose. Et c'est un très gros travail qui justifie des consultations mémoire et des centres mémoire de ressources et de recherche, comme celui du CHU de Poitiers, puisque le travail qui est à faire, c'est de préparer l'avenir. Il faut qu'on puisse classer le mieux possible les troubles parce que les traitements qui vont arriver vont être différents. Et donc, si on ne fait pas cet exercice de discernement, on ne sera pas prêt. Et il faut être prêt parce que le jour où il y aura un traitement pour ceci, ce ne sera pas tout à fait pour cela. Et alors, mieux on sera diagnostiqué, plus on pourra aider les gens qui viennent se confier à nous.
Puisqu'on parle de ça, justement, la recherche, elle agit sur quels aspects, où elle en est, la recherche sur la mémoire et sur les remèdes, enfin.
Alors, vous savez, il y a deux types de recherche. Il y a la recherche pure sur la mémoire et ses mécanismes. C'est une recherche qui est médicale et psychologique, mais aussi sociologique. Ensuite, il y a tout un courant de recherche sur les molécules qui sont mises en jeu dans les processus de mémoire. Bien sûr qu'on n'a pas eu le temps d'aborder cela, mais on sait qu'il y a des neuromédiateurs. Hein. Ce sont des molécules qui permettent la transmission des messages nerveux d'un neurone à l'autre, qu'il est important d'identifier parce que certains sont mis en jeu dans certains types de mémoire. Comment que nous gardons les souvenirs dans notre cerveau ? C'est un grand mystère. Comment se font ces traces? Essayons d'y réfléchir. On s'aperçoit que c'est très compliqué. On voit ce qu'est un cerveau, on en a vu au moins chez l'animal. Eh bien, là-dedans, là, dans cette substance gélatineuse qu'est le cerveau humain, il y a cette merveille architecturale avec des traces. Vous voyez bien qu'on est devant un monde considérable et que ces traces, elles sont d'ordre chimique. Elles modifient les cellules, mais comment on fait pour les remettre en cause, les remettre en marche? Voilà, là il y a effectivement une recherche très très importante qui est en jeu. Et puis la recherche, elle porte après sur les mécanismes des maladies. Parce que bien sûr, quand une maladie atteint la mémoire, il faut essayer de savoir comment, pourquoi. Alors là, il y a des modèles animaux, bien sûr, et puis il y a des dosages particuliers de substances dans le cerveau. Et puis à la recherche thérapeutique, vous avez actuellement, on dispose de 4 molécules qui ont l'autorisation de mise sur le marché dans la maladie d'Alzheimer. Ça fait 20 ans, il y avait eu un beau rêve, on avait une molécule qu'on appelait promnésiante. C'est un joli mot, ça, promnésiant. C'est-à-dire qu'il renforçait la mémoire. Et on a vécu une année, vous savez, quand on fait des essais thérapeutiques, c'est assez palpitant parce qu'on espère toujours, et ça se passe toujours 10 ans avant que le médicament soit sur le marché, quoi. Et c'est une période intense. Et une molécule promnésiante est sortie. Hélas, elle a entraîné 2 ou 3 accidents sévères et elle a été retirée du marché. Et nous n'avons plus aujourd'hui de molécules promnésiantes. Donc on a 4 médicaments pour l'Alzheimer, point. Et des petites choses à côté, mais pas de vraies molécules promnésiantes. Donc il y a un champ de recherche thérapeutique qui est considérable. On peut estimer aujourd'hui à peut-être pas tout à fait 100, mais pas loin de 100 molécules différentes qui sont expérimentées dans le monde. Et il y a donc un effort qui est considérable. Évidemment, la recherche, ça ne se commande pas les résultats, et puis un jour, on aura peut-être une surprise, mais il y a un très très grand effort qui est fait.
Très bien. Des questions dans la salle? Oui. Allez-y.
Oui, justement, on a parlé tout au début, et en rapport avec ce que vous venez de dire, de la dépression, de la prise de psychotropes, de cannabis. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a eu ces traitements au niveau de la mémoire? Est-ce que ensuite, on va dire qu'on a provoqué schématiquement un trou de mémoire? Et est-ce qu'on peut réacquérir, s'il y a eu, une destruction de la mémoire, est-ce qu'on peut réacquérir, soit par des traitements ou alors par des exercices, ou est-ce que la mémoire, pendant ce temps-là, pendant cette période, a été complètement altérée?
C'est très complexe, les relations entre les médicaments et la mémoire, mais ça doit faire l'objet d'une attention toute particulière. Les médicaments peuvent agir sur la mémoire de plusieurs manières, d'abord de manière chronique et de manière aiguë. Alors, de manière aiguë, il y a des médicaments qui, chez des sujets sensibles, peuvent interrompre le fonctionnement de la mémoire. Notamment certains tranquillisants ou certains hypnotiques. Et on a pu voir des choses tout à fait comme ça, stupéfiantes. Un chirurgien, appelé de nuit, fait une opération dont il a beaucoup l'habitude avec ses aides, l'appendicite aiguë. Il rentre chez lui le matin, il se couche, il retourne dans son service ou sa clinique le lendemain, et on lui dit ben docteur, votre opéré là, cette nuit va très bien, mais j'ai opéré personne. Quel intervalle. Il avait pris un hypnotique pour dormir, fatigué, mais on l'a appelé, il est parti, il a mis en jeu une mémoire procédurale, vous savez, inconsciente, celle qui fonctionne bien, parce qu'il en a fait 392, et donc il a fait sa 393e sans problème, et puis il est reparti, voilà. Et l'enquête a montré. Mais ça peut être aussi cette personne qui, après une intervention chirurgicale, on lui dit il faut reprendre votre traitement anticoagulant, sauf qu'il avait pris un hypnotique avant, il a bien entendu, il n'a pas mémorisé, il revient sur Poitiers de 800 km, et arrivé à Poitiers, un caillot vient boucher une artère cérébrale et il fait une hémiplégie. Mais on ne m'avait pas dit de prendre le médicament, mais si, mais il a eu ce trou, cette interruption. Donc ces accidents aigus existent et ça justifie que ces médicaments doivent être prescrits. Monsieur Bérard y a insisté qu'avec un contrôle médical strict. Et puis il y a l'effet chronique. Alors l'effet chronique, bien sûr, vous avez ces médicaments peuvent agir sur l'attention. Et quand on agit sur l'attention, on mémorise moins. Hein. D'abord, on est attentif, on file sans attention, il n'y a pas de mémoire. Et puis, ils peuvent aussi chroniquement altérer le fonctionnement des circuits de Papez dont on vous a parlé tout à l'heure. Dans ce cas-là, l'arrêt et le sevrage ont un effet favorable, hein, heureusement. Donc voilà pourquoi, dans l'enquête sur un trouble à mémoire, on accorde la plus grande attention aux médicaments qui sont pris. Parce que, évidemment, il faut éviter, et il y en a beaucoup des médicaments, vous avez certains médicaments qui s'opposent à un neuromédiateur qui joue un grand rôle dans la mémoire. Eh bien, il est évident que on fait le contraire que pour traiter un Alzheimer, vous voyez. On bloque les substances qu'on renforce dans l'Alzheimer avec des médicaments qui, par ailleurs, peuvent rendre des services. Mais si on ne le sait pas, on peut altérer sa mémoire. Bon, le médecin qui prescrit, lui, il a ça en tête et il va surveiller la personne à qui il prescrit. Mais elle ne peut pas faire d'automédication. Voilà. Donc, pour les médicaments, il faut être très attentif parce que la plupart du temps, heureusement, ce ne sont pas des troubles permanents. Ce sont des troubles qu'on peut corriger.
Très bien. D'autres questions ? Est-ce que on parlait des médicaments, mais est-ce que le manque de sommeil peut aussi avoir des conséquences sur la mémoire ?
Et le manque de sommeil, c'est extrêmement variable. Bon, d'abord, nous sommes très inégaux face au sommeil, et donc le manque de sommeil chez quelqu'un ne l'est pas chez d'autres. Le manque de sommeil n'est ennuyeux que s'il agit sur l'attention. Mais si un sujet manque de sommeil, mais est extrêmement attentif et motivé, sa mémoire peut fonctionner correctement. Bon. Le sommeil, c'est surtout l'attention. Donc c'est la mémoire, mais c'est la précision du geste, c'est plus ça. Mais on ne peut pas dire que le manque de sommeil soit un grand ennemi de la mémoire. C'est plus un grand ennemi de l'attention.
Sauf peut-être le syndrome adapté du sommeil.
Alors, ça, c'est oui.
C'est un autre problème.
Voilà, puisque le syndrome adapté du sommeil, dont parle le docteur Bérard, c'est le fait que la respiration se bloque la nuit, et là, on manque d'oxygène dans le cerveau. Donc, on est dans un processus différent qui fait qu'effectivement, on a des troubles de la mémoire par manque d'oxygénation cérébrale.
Des questions dans la salle ou dans la salle du planétarium, il y a au fond de. Si vous avez un micro. Oui, bonsoir. Bon, alors allez-y, on vous écoute et puis madame, ça sera après. Allez-y.
Alors, bonsoir. Je voulais poser une question sur on va dire, la société actuelle qui fait que grâce à toutes ces aides, on parlait tout à l'heure d'agenda, etc., mais là, on a beaucoup de téléphones portables, on a. Beaucoup de choses qui nous permettent de mettre en mémoire des numéros de téléphone, des choses, des rendez-vous, etc. Est-ce que ça ne rend pas justement les individus actuels que nous sommes des êtres qui ont une mémoire un peu paresseuse ? Est-ce que, voilà, en fait, j'exprime mal peut-être ma question, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'on n'est pas rendu un peu paresseux ?
C'est très clair, hein, c'est très clair.
Et deuxième question. Ça, c'est quelque chose peut-être d'idéaliste, sur le fait que certaines personnes, il y a des procédés, on voit, enfin, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, mais des personnes qui peuvent retenir, alors miraculeusement, des pages entières du bulletin téléphonique, etc. Donc voilà, deux questions, une sur la paresse de la mémoire actuelle sur le fait qu'il y a des génies de la mémoire. Merci.
Oui, en ce qui concerne les agendas et tout ça, il y a un mot nouveau qui s'appelle les prothèses cognitives. Il y a les prothèses de hanche, il y a les prothèses de genoux et les prothèses cognitives. Alors, évidemment, il n'y a pas eu d'études contrôlées qui montrent que les grands utilisateurs d'agenda aient une mémoire plus défaillante. Je pense que c'est qu'ils sont suroccupés et qu'ils sollicitent leur mémoire à autre chose. Je crois que si on a des agendas très... très sophistiqué, c'est pour rendre la mémoire disponible pour d'autres événements. Mais je ne connais pas d'études qui actuellement aient montré qu'il y ait, en fonction de l'utilisation de ces outils, de ces prothèses cognitives, une différence significative.
Et ne croyez-vous pas qu'on a quand même beaucoup plus de choses dans la mémoire qu'il y a un siècle ? Donc, l'agenda est une sélection pour éliminer quelque chose, mais on a quand même beaucoup plus d'informations qu'avant.
Et pour les génies qui retiennent tout le bottin ?
Voilà. Alors ça...
C'est la mémoire exceptionnelle.
Voilà. Vous savez, ce sont des attractions de cirque, vous le savez bien, qui font l'objet de réflexions et de recherches. La plupart utilisent des procédés, ce sont des procédés mnémotechniques, et surtout ça ne marche que sur un secteur. Celui qui récite le bottin, il ne connaît pas tout Corneille. Celui qui connaît tout Corneille, il ne connaît pas tout Racine. Donc ce sont des hypermnésiques, mais ce sont des gens qui ont une faculté... certains peuvent vous dire le jour de la semaine, le 23 janvier 1812. Bon, vous devinez bien qu'il y a des procédures qui sont utilisées, qui sont de l'ordre parfois de la magie, enfin comme un tour de magie, quoi, où on apprend une série de processus qui vous disent vous passez de l'année et du jour du mois au jour de la semaine. Et vous pouvez dire que le 12 janvier 1912, c'était un mardi, quoi, hein, voilà. Mais ces gens-là n'ont jamais fait des génies. Hein. Il n'y a jamais eu de créativité. Ce sont des facultés hypermnésiques très enfermées. Donc ils ne sont pas hypermnésiques en tout. Hein. C'est très important.
Ouais, le bottin, ce n'est peut-être pas ce qui sert le plus. Hein. Il y avait une question. Je vous donne le micro après. Mais il y a une question au fond, je crois.
Oui.
Allez-y. Parlez bien devant le micro, il n'est peut-être pas branché. Ouais.
Oui, donc moi en fait je voulais poser une question à propos donc, de l'attention et des fonctions cognitives. Donc en fait vous nous avez expliqué qu'il y avait d'une part la mémoire et d'autre part l'attention. Et je voulais savoir en fait comment on pouvait expliquer que parfois en fait certaines personnes qui font une tâche qui leur demande de l'attention... vont avoir des difficultés à faire une tâche qui leur demande finalement de la mémoire, même de la mémoire implicite, comme par exemple marcher. Voilà, donc quel était le circuit concernant l'attention et pourquoi cela pouvait avoir des interférences avec la mémoire, en fait.
Attendez, si on regarde comment s'élabore un souvenir dans l'axe du temps, on commence par un processus attentionnel. L'attention, c'est effectivement diriger l'esprit vers. Cette attention, ça dépend de l'éveil, mais ça aussi dépend de la capacité à pouvoir faire une action de synthèse. Et ça, on connaît bien les structures qui sont en cause, qui sont essentiellement le lobe frontal. Bon, des informations du monde, certaines entrent par un processus attentionnel, encore qu'il y ait des phénomènes de mémoire incidente, hein, mais ça c'est un autre sujet. Il y a parfois des événements qui arrivent en nous et qui sont enregistrés sans qu'on l'ait voulu. C'est d'ailleurs ce qu'utilisent les publicistes sur les bords des autoroutes pour nous faire acheter tel ou tel dentifrice. Hein. Ça c'est un autre sujet, c'est la mémoire incidente. Bien, ensuite, ces événements-là, on les garde quelques instants, et là on est dans cette mémoire immédiate qui n'est pas une vraie mémoire, on vous en a parlé tout à l'heure, et cette mémoire, on peut aussi s'en servir. Là, actuellement, je vous parle, je pense à votre question, je pense à ce que je vais dire, je suis obligé d'aller d'un sujet à l'autre, et je mets en jeu ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est un peu la mémoire vive de l'ordinateur. Cette mémoire vive de l'ordinateur, elle est labile, elle est fugitive, et un certain nombre d'événements vont vraiment être stockés. Et c'est là que commence la véritable mémoire. Donc on a tout un processus en chaîne qui va de l'attention jusqu'au stockage et qui explique effectivement que tous ces événements sont reliés les uns aux autres de manière complexe, mais que dans l'exploration d'un trouble de la mémoire, il faut qu'on voit qu'est-ce qui revient à l'attention. Il y a ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire les fonctions de gestion générale de l'activité mentale. Qu'est-ce qui revient à la mémoire de travail? Qu'est-ce qui revient ensuite à la mémoire proprement dite et de quel type est l'atteinte? Mais tout cela, effectivement, peut faire l'objet d'une étude détaillée. Oui, c'est clair, on ne peut pas détailler là, mais c'est sûr qu'on a les moyens.
On a une question juste devant.
Oui, allô, oui. Si. Je me permets... Vous m'entendez là, oui?
Bon, bah, allez-y, je donne juste après, il y a une question de juste devant moi.
Je permettrais de titiller M. Gilles, car il me semble bien ne pas avoir beaucoup entendu parler du domaine affectif. On a dit deux mots de perception émotionnelle, mais relativement peu. Alors je pense qu'il y a quand même là un domaine qui joue d'une manière assez sensible sur la mémoire et tout ce qui tourne autour.
Oui, absolument. Le circuit de Papez dont Anne Fradé a parlé avec les hippocampes, vous avez vu le mot qui a été écrit, Papez, hein, en gros, P-A-P-E-Z, a été décrit dans le contrôle des émotions. Donc les circuits de la mémoire et le circuit de la vie émotionnelle sont étroitement connectés l'un à l'autre. Et voilà pourquoi dans les tâches d'apprentissage volontaire, la motivation est extrêmement importante. Or, la motivation, c'est une partie de l'émotion, c'est la même racine, c'est ce qui donne du mouvement. Et effectivement, plus on est intéressé, plus on se met en condition de se souvenir. Et il est sûr que la vie affective joue un rôle important dans la mémoire, dans l'acquisition des souvenirs. A contrario, bien sûr, une émotion négative peut voir un souvenir s'inscrire en nous, un événement en lettres de feu. On se souvient de personnes qui ont un accident et qui le revivent sans cesse. Et on peut voir là l'inverse, provoqué toujours par l'émotion. Donc c'est vrai que quand on parle de la vie affective, de la vie cognitive, et qu'on la décrit sur le plan technique, on ne peut pas tout aborder, mais il ne faut jamais oublier ce moteur qui est le moteur émotionnel. Raison et émotion ont partie liée. Et je peux vous renvoyer donc à ce très beau livre qui est maintenant un livre de poche, qui s'appelle L'erreur de Descartes, ou La raison des émotions, qui a été écrit par Antonio Damasio, D-A-M-A-S-I-O, et qui explique bien comment on ne peut pas envisager l'un sans l'autre. Et dans toutes les activités cognitives, on ne peut pas se séparer de l'émotion, soit comme booster, soit au contraire comme perturbateur.
Ce qui laisserait penser que les femmes vivent plus leur mariage et que c'est pour ça qu'elles se souviennent de la date.
Voilà. Vous
m'en voulez
un peu,
je pense. Bon, je continue. Je passe le micro, ça va être une des dernières questions, madame.
Merci. Oui, je souhaitais vous demander, justement, dans cet esprit relation émotion-mémoire, si on a pu analyser le phénomène du trou de mémoire de l'artiste qui a pu déclamer un texte des soirées durant et qui tout d'un coup se retrouve à sec comme ça sur une estrade Est-ce qu'on l'a analysé? Est-ce qu'il y a différentes raisons?
Bon, là, on peut difficilement répondre. Enfin, c'est un sujet qui n'a pas pu faire l'objet d'études expérimentales. Donc, je ne connais pas d'études scientifiques, mais c'est par le biais du stress et du déferlement émotionnel qu'on peut expliquer probablement une captation attentionnelle massive d'un sujet qui se rassemble, qui se ramasse sur une émotion et qui du coup quitte son texte pour être capté par cette émotion envahissante. C'est d'ailleurs toutes ces expériences qui ont discrédité pendant longtemps l'émotion, dont on n'a vu que les aspects négatifs, alors qu'on a aussi évoqué il y a un instant les aspects positifs, mais c'est dans ce sens-là que l'explication peut se bâtir.
En préparant l'exposé, là, j'ai lu quelque chose sur ce sujet-là, sur un bouquin, je ne me souviens plus du titre, sur la mémoire, et il disait que... je ne me souviens plus. Et il disait que le trou de mémoire de l'artiste...
On vous entend mal.
...se produit bien souvent, jamais dans les premières, mais toujours au bout de la 200e ou de la 300e. Il disait qu'en fait, c'est une perte d'attention... De la routine. Mais les trous de mémoire surviennent jamais dans les premières.
Une autre question juste devant moi. S'il y a des questions dans le planétarium, ce sera après, ce sera les dernières questions.
Je vous remercie. Je voulais vous demander, puisque vous avez signalé les dangers des hypnotiques et des anxiolytiques, ce que vous pensez de ce que l'on propose aux chères têtes blondes à l'heure actuelle de plus en plus souvent, à savoir des médicaments qui sont censés aider l'attention des enfants et surtout enlever leurs troubles du comportement.
Ben pas moi. Pas moi. Mais par contre, sur les enfants, donc ça c'est sûr que non. Et même, je peux vous dire que je suis dans un coin à côté de la fac, donc je vois beaucoup d'étudiants, et il est hors de question de leur donner... un hypnotique ou un anxiolytique.
Sauf non, mais plutôt tous les médicaments.
Majeur, dépression,
je pense que madame parlait plutôt des médicaments qui sont censés booster la mémoire pour le bac, par exemple. Non.
Des médicaments pour les enfants hyperactifs.
Oui.
Ah oui, c'est très précis. Ah oui.
Mais moi, je veux revenir quand même sur les seniors. On a énormément de mal quand même avec les hypnotiques. On veut les arrêter, on n'y arrive pas. Et je vous rappelle qu'on est pratiquement tous les médecins hors la loi. Parce que vous savez qu'on a des AMM qui nous imposent des posologies. Et que chez la personne âgée, la posologie normale d'un hypnotique est la mi-dose. Demi-dose. Et ben, vous regardez les ordonnances de vos parents et vous regarderez. C'est absolument impossible de faire diminuer les doses.
Monsieur. Je comprends bien la question de Françoise. Bon, c'est un débat, c'est un débat important qui concerne les enfants hyperactifs. Ces enfants hyperactifs, ils n'ont pas de troubles de la mémoire. Mais ce sont des enfants qui sont déclarés comme insupportables, etc., dans le langage commun. Et un certain nombre d'études a montré que ces enfants... ont un déficit de l'attention. Et qu'au fond, c'est parce qu'ils ne peuvent pas concentrer leur attention qu'ils sont extrêmement instables. Et d'ailleurs, on a cité souvent le cas des enfants. C'est quand les enfants vont s'endormir, on leur dit, tiens, tu as sommeil, tu t'énerves, il faut aller te coucher. Et effectivement, quand un enfant lutte contre ce trouble de l'attention, contre le sommeil, quand un enfant lutte contre le sommeil, il a tendance à être instable. Et cette lutte contre le sommeil reflète la baisse de l'attention. Mais ça, c'est normal. Mais il y a des gamins qui ont un déficit chronique de l'attention d'une manière intense. Et quand c'est prouvé, un certain nombre d'études ont montré que des stimulateurs de l'attention les amélioraient, alors que si on leur donne des calmants, on aggrave leur instabilité. Donc voilà aujourd'hui quel est le débat scientifique en cours. Un certain nombre de travaux pensent que ces troubles, ces enfants instables, c'est des causes environnementales ou psychologiques. D'autres pensent que ce sont des causes neurobiologiques et que ce sont des enfants qui ont un déficit considérable de l'attention. Et donc, on leur donne des stimulants. Et paradoxalement, les stimulants, dans ces études contrôlées, ils les améliorent. Voilà, voilà le débat aujourd'hui. Un grand débat.
Et quand il s'agit de se souvenir de ses rêves, est-ce que la mémoire entre en jeu? Est-ce qu'il y a un lien entre les rêves et la mémoire? Il y a des gens qui se souviennent toujours de leurs rêves, d'autres pas du tout.
Oui, mais on ne peut rien dire dessus. Le seul problème que nous apprend le rêve, c'est cette capacité extraordinaire qu'a le cerveau humain, quand il rêve, de croire que c'est vrai, et quand il se réveille, de savoir que c'est faux. On peut réfléchir à un très beau devoir de philosophie que je peux vous inviter à faire sur le sujet suivant, 8 pages à 4. En quoi la perception normale a-t-elle des caractères psychologiques spéciaux qui permettent de la différencier radicalement de l'image du rêve? Et si nous rêvions tous, là, aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est? Donc c'est vrai que je serais très intéressé, parce que c'est un sujet considérable. Là, nous savons bien que nous ne rêvons pas, mais après tout, peut-être que nous dormons tous et qu'on va se réveiller tout à l'heure. Voilà. Vous savez ce qu'il y a de terrible? C'est précisément quand cette frontière entre le rêve et la réalité s'estompe. Et quand le sujet qui se réveille pense que ce qu'il a rêvé est vrai. Et là, on entre dans le délire. Vous comprenez? Autrement dit, il fait rentrer son rêve dans le champ de la réalité. Et c'est ce qu'on observe, par exemple, dans le délirium tremens, au cours de l'alcoolisme, vous savez. Dans le délirium, le sujet va vivre un rêve, mais ce rêve, il va le considérer comme vrai au moment où il le vit. Quand il guérit son délirium, il l'oublie, heureusement. S'il s'en souvient, il croira qu'il a vraiment vécu. Et il fait un délire résiduel, comme une séquelle. Alors c'est un très très grand mystère que ces rapports de la mémoire et du rêve, ça va au-delà du souvenir, ça va aussi dans cette capacité que nous avons à dire ce qui est du réel et ce qui est de l'imaginaire. Et ça, c'est une faculté qui doit nous émerveiller. Mais on ne s'émerveille jamais assez de ce que fait notre cerveau. Pourtant, c'est plus compliqué que le cœur, hein, heureusement.
Bon, bah, c'est une bonne chute, hein. La nuit porte réflexion. Merci à tous. Oui, monsieur Bérard, allez-y.
Juste une question, là, vous avez tous des feuilles et des crayons devant vous. Qui se souvient des 4 mots que nous avons vus dans le premier film?
Ils sont bons.
Qui se souvient des 4?
Je vous avais dit qu'il y aura un terreau. Hein. Juste avant que vous partiez, s'il vous plaît, je vous rappelle juste 2 petites choses. Vous avez les questionnaires d'évaluation à l'intérieur des documents. Merci de les remettre aux hôtesses. On vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence du Pôle Info Santé le 16 avril et le thème sera le cancer. J'en profite aussi pour vous dire que le CHU fera une opération porte ouverte pour découvrir le pôle régional de cancer.